Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Aujourd'hui, direction Montréal avec Gomina de Fréquence Mutine qui est partie à la rencontre des artistes québécois programmés à la 33e édition des Francofolies.
Et oui, je suis parti pour la Ferrarock du côté de Montréal suivre les Francofolies 33e édition qui ont eu lieu du 10 au 18 juin dernier. Et commençons par Laurent Saunier, programmateur du festival, par un petit tour du propriétaire et une présentation de l'équipe.
Ben, on est 5 au total pour faire donc la programmation des Franco, mais aussi celle du festival de jazz qui démarre dans 10 jours ou à peu près. Et aussi d'un autre festival en hiver qui s'appelle Montréal en lumière qui a lieu fin février.
Et du coup, chacun un petit peu, on va dire, ses courants musicaux préférés, son expertise, comment ça fonctionne?
À l'interne, chacun a ses préférences, bien entendu. Chacun a ses petits dadas. On a des amateurs de hip-hop, on a des amateurs de rock, on a des amateurs de chansons, etc., etc. Mais ça se passe à l'interne. À l'externe, j'aime bien dire que toute décision est une décision d'équipe. On se stimule les uns les autres à écouter toutes sortes d'affaires. Et il y a beaucoup d'échanges de musique comme ça à travers l'année. Donc, on a peut-être des spécialistes qui deviennent généralistes assez rapidement à force d'écouter toutes sortes de trucs.
On se bagarre des fois un peu ou quoi?
Il y a rarement de la bagarre, parce qu'au final, c'est moi qui décide. Dit-il calmement.
Le patriarche.
Alors... Non, mais il n'y a pas de bagarre comme telle. Il y a des vraies discussions. Ça, c'est sûr. Et c'est même important, c'est même stimulant d'avoir ce genre de discussion. Mais de la façon dont on a conçu la programmation, c'est-à-dire que la plupart des scènes sont à peu près thématisé. Il y a une scène qui est complètement dédiée au hip-hop, il y a toute une série à l'extérieur qui est vraiment très rock, il y a une scène qui est une tendance un peu plus world, bon, ce genre de truc-là. Donc, pour placer les groupes, c'est relativement facile. Là où ça se complexifie beaucoup plus, c'est dans ce qu'on présente en salle, où parfois, il peut y avoir un peu de bagarre dans le sens où s'il nous reste un spot au MTLUS, par exemple, des fois, les esprits s'échauffent un peu. Mais en même temps, rien de dramatique. L'important, c'est qu'on ait une programmation équilibrée. Donc, même si tu es le plus grand fan de rock psychédélique au monde, et je sais très bien à qui je parle, si on juge qu'on a suffisamment à la programmation, on passe à un autre sujet. Hein?
Ah, tu m'as bien démasqué, Laurent. C'est vrai que j'ai une préférence pour les groupes à guitare, et je n'ai pas manqué d'aller à la découverte des jeunes talents, tels que Solipsisme, combo psyché programmé un soir à 22h, alors même qu'aucun disque n'est sorti. Rencontre avec le guitariste du groupe. En compagnie de François du groupe Solipsisme, il faut pas se tromper quand on prononce le nom du groupe. C'est quoi? C'est pour marquer des points au Scrabble?
Oui, exact. Oui. Ben en fait, je pense que c'est un peu, on s'amuse avec les mots autant qu'on s'amuse avec les images puis les sons. C'est un peu de voir les mots et les paroles associées à la musique comme un instrument de musique au lieu d'avoir vraiment des paroles mises de l'avant. T'sais, on n'est pas un groupe de chansons, on est plutôt un groupe, on veut faire un ensemble psychédélique, un univers psychédélique. Quoi qu'on utilise les mots comme une image, puis si ça peut mêler les gens, tant mieux, on aura réussi.
Un groupe assez récent avec du son, des guitares sur scène, trois guitares sur scène qui proposent en effet cet univers très psychédélique, mais pas que.
Ben, je crois qu'on a un peu deux sons. On a le son sur album et puis le son en live. Donc, je crois que sur album, c'est peut-être un peu plus précis et puis on arrive un peu plus du début à la fin un peu plus rapidement. En concert, on aime ça étirer, puis vraiment créer un mood, une ambiance générale, puis étirer nos parties avec des côtés plus ambiants, sans dire Pink Floyd, mais t'sais, avec un petit vibe un peu à la Brian Johnstone Massacre, t'sais, qui a beaucoup de variations un peu dans ses styles parfois, même si ça reste un peu la même formule. On pourrait mentionner peut-être le groupe Temples, qui ont des changements un peu plus brusques, un peu plus up-tempo, donc on va faire un petit ensemble de ça, des longueurs instrumentales, des changements un peu plus rythmé, mais surtout en live, tu sais, pour faire un peu plus bouger le monde si on veut. Donc c'est pour ça je crois qu'il y a un peu deux sons, le son de l'album, le son live, puis en live, ben, on veut s'assurer que les gens puissent vraiment rentrer dans l'univers puis se laisser emporter par la musique, puis en faisant un peu un gros flow, une rivière un peu qui coule avec des fois des petites chutes.
Solipsisme, il faut pas oublier le petit S à la fin sur Bandcamp, on peut aller retrouver ces trois morceaux. Tu disais en début d'interview qu'il y avait un jeu avec les mots pour les faire sonner comme des instruments. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours connu aussi de tous les groupes, notamment sur les groupes rock au Québec. Et souvent, on se retrouve du coup avec des paroles qui peuvent être assez poétiques, assez imagées. Ouais. Et en fait, c'est ça l'enjeu, c'est de faire sonner le français comme l'anglais peut sonner naturellement.
En fait, au début du projet, on a essayé de le faire en anglais, puis c'est un peu une espèce d'habitude qu'on a ici. On crée un groupe, on va chanter en anglais. Et puis après quelques réflexions, on écoutait les démos un peu, puis l'accent est trop perceptible, puis on s'est dit, tu sais quoi, on va se forcer. On va faire des belles paroles imagées en français parce que c'est sûr qu'il y a toujours la peur de comme ah, tu sais, ça va sonner un petit peu cucu peut-être. On voulait faire attention à ce côté-là, donc on s'est dit on va l'utiliser comme un instrument. On va vraiment bien on va jouer avec les mots comme si c'était des images. Et puis je crois que le résultat est intéressant. On voulait pas faire de quoi de trop premier degré. Tu lis les paroles, puis l'histoire est là. Je crois qu'on veut laisser la place aux gens aussi de se faire un peu leur propre interprétation des mots, puis peut-être même aller voir dans le dictionnaire qu'est-ce que les mots veulent dire.
Parce que c'est vrai que sur le concert que vous avez donné, qui est un concert assez court, on l'a compris, il n'y a encore pas un répertoire de 25 morceaux à choisir, sur des titres assez longs, en fait, il y en avait très peu qui étaient chantés.
Pour revenir à mon expérience musicale, venant de la scène plutôt post-rock, j'apprécie vraiment beaucoup les morceaux instrumentaux. Comme on utilise la voix comme un instrument un peu, je le vois un peu comme on utilise le synthétiseur, donc il n'y en a pas partout. Certaines chansons, il n'y en a pas. Certaines chansons, c'est mis un peu plus de l'avant. Aussi, les chansons qui ont des paroles, c'est des chansons qu'on a travaillées en studio, puis les paroles ont été vraiment décidées. Comme la décision finale s'est faite lors de l'enregistrement, donc les chansons qui n'ont pas de paroles, peut-être qu'au dans le futur, ils vont se retrouver avec des paroles. On ne sait pas encore.
Ça pourrait être avec des invités?
Ben, peut-être aussi. Mais on veut garder le côté spontané de l'écriture, de l'enregistrement, puis du concert. Puis je crois que c'est important aussi d'avoir des espèces de variations entre concerts. Que les gens viennent voir le concert et que ce ne soit pas nécessairement aller revoir les mêmes chansons tout le temps, d'aller revoir le groupe avec l'idée de comme « Oh, ça va être quoi cette fois-là? »
Par rapport à cet univers post-rock que tu as avec ton autre groupe, finalement, on pourrait sentir l'idée et l'envie justement de prendre le temps de créer une ambiance, de mettre l'auditeur dans un état et ensuite faire partir le morceau et le faire avancer, soit vers une montée, soit faire des choses différentes, mais avec ce côté psyché qu'on a donc chez Solipsisme.
Oui. En fait, la formule reste la même, hein. C'est simple. C'est la même formule que le post-rock, donc on part tranquillement, puis on monte en intensité, puis on joue avec ça. C'est juste qu'au lieu de faire des accords en mineur, on fait des accords en majeur, et puis ça se transpose super bien. Mais je crois que oui, c'est très, très, très important de jouer avec le public, de s'assurer que laisser le temps au public d'entrer dans l'univers, là, et puis de les amener ailleurs, de les faire couler la rivière avec nous autres.
On incite les auditrices et les auditeurs de la Ferrarock, évidemment, à aller découvrir le groupe qu'on va surveiller de près. Merci beaucoup, François.
Merci à toi.
À tout bientôt.
Ben oui, à la prochaine.
un de mes concerts préférés de tous les concerts que j'ai pu voir. C'était Edith Butler, qui jouait donc sur une scène extérieure avec un public ultra nombreux, impatient de la retrouver. Moi, je la connaissais que à travers des pochettes de disques dans mes souvenirs des années 80. Je ne vais pas cacher, je pense que je n'avais jamais écouté Edith Butler de ma vie. Et j'ai vu un concert incroyable. J'ai vu une dame, une madame avec un humour cinglant. Évidemment, avec Lisa Leblanc qui était pas loin parce qu'elle a produit son dernier disque.
Exact.
Ça, c'est quand même quelque chose aussi qu'on va retrouver tous les ans au Franco. C'est cette volonté comme de mettre une place vraiment importante et des focus très forts sur ces artistes qui sont essentiels au Québec.
Et qu'on a peut-être oublié par moment. Faut se le dire, sur cette scène, dans cette série, non seulement on avait Edith Butler qui a un peu plus de 80 ans maintenant, mais on avait aussi Jacques Michel qui est un peu le même cas de figure. On aime parfois ressortir comme ça des espèces de vétérans pour qui, pour certaines personnes, ce sont presque des légendes. Tu vois l'exemple que tu donnais avec Edith Butler pour Lisa Leblanc. Edith Butler, c'est une légende vivante. Elles viennent du même coin de pays, hein, les deux, du Nouveau-Brunswick. Ce sont deux Acadiennes. Lorsque Lisa a eu cette idée de produire ce qui s'avère être le plus récent disque maintenant d'Edith Butler, elle était complètement folle de joie, mais complètement. C'était vraiment un achievement, comme on dit en bon français, de réussir à faire ça. J'aime beaucoup cette idée qu'on puisse se balader comme ça, non seulement à travers les styles musicaux, mais aussi à travers les époques. Et ça, c'est important aussi de pouvoir dire qu'il y a des jeunes groupes qui ont à peu près rien en disqué, et que parallèlement à ça, on a deux octogénaires sur la même scène qui ont des répertoires fous, mais fous. Donc, et avec tout ce qui va entre les deux. Ça, je trouve que ça représente quand même assez bien les Franco ici.
Et puis pour en finir avec Edith Butler, pas du tout l'impression de voir une dame de 80 ans sur scène, c'était incroyable, l'énergie.
Ouais. Mais il n'y a rien de ringard, il n'y a rien de déplacé, il n'y a même pas de nostalgie dans tout ça. Elle est tout aussi pertinente aujourd'hui qu'elle pouvait l'être il y a 30 ans ou 40 ans. La question, c'est d'abord et avant tout ça. Qu'est-ce qui est pertinent à présenter aujourd'hui? Et on trouvait que, avec son album de retour, entre guillemets, Edith Butler méritait bien un retour au Franco après un peu plus de 25 ans d'absence, quand même.
Quand même. Et un public jeune, un public âgé, un public transgénérationnel, mais ça a été le cas sur tous les concerts, tout type de musique. Et ça, c'est aussi une particularité, il y a une ouverture d'esprit, enfin, je trouve ça incroyable de me dire que tu vas avoir en effet un groupe comme hier soir, Population 2, qui a sans doute le groupe qui a joué le plus fort, de façon la plus intense du festival, mais avec des gens qui avaient sans doute 70 ans, qui étaient à fond et qui dansaient dans les premiers rangs, et puis inversement, d'autres concerts où tu avais des... à Edith Butler, mais tu avais des jeunes de 20 ans qui dansaient, qui vivaient leur meilleur moment de leur semaine. Et je trouve ça fou, moi. Ça, c'est vraiment
tout ce que tu dis là, mais un grand sourire sur mon visage quand même, parce que c'est un peu l'objectif. C'est un peu l'objectif. Je le dis souvent, les Franco, c'est pas un festival qui est dédié à un genre musical. On peut écouter toutes sortes de musiques. Et après ça, c'est au public de faire ses choix dans cette grille de programmation qui est quand même assez opulente aussi. C'est 150 concerts ou à peu près. Donc, inévitablement, tu ne peux pas tout voir. Tu dois faire des choix. Un coup que tu es sur place, par contre, tu peux aussi te laisser aller selon l'inspiration du moment, selon ce qui joue sur la scène à côté du concert qui tu voulais voir qui vient de se terminer. Bref, il y a plusieurs façons d'aborder une visite sur le site des Franco. Mais je trouve que l'idée de mélanger tout ça, moi, me séduit plutôt aussi.
Dans le bois, des cabanes dans les rues de neige, le feu dans le bois, les jours de gel. moi, ben, Edith, je l'ai toujours adoré. Ça a toujours été une connexion vraiment facile, puis qui s'est faite vraiment naturellement. Je l'ai rencontrée quand j'avais 16 ans. J'étais une petite pinotte, puis je commençais à jouer des tunes, puis on avait fait un cercle d'auteurs ensemble. Je me rappelle juste comment gentille puis généreuse qu'elle était avec moi, quand elle n'aurait pas été obligée. T'sais, j'étais juste une débutante qui commençait, mais elle avait été tellement fine, puis pour moi, ça m'avait marqué. Quand je l'ai vue en show après, pour la première fois, c'est là que j'ai comme fait « OK, je comprends ». Je comprends pourquoi ça marchait. J'étais sortie de là en pleurant, en riant, en tout. C'est vraiment quelqu'un de... C'est une des personnes les plus charismatiques que je connais, en fait. C'est une historienne aussi. T'sais. C'est quelqu'un qui a un bagage énorme de chansons folkloriques, qui a fait ses études là-dedans aussi. T'sais. Fait que c'est une encyclopédie, là, cette femme-là. Puis ben, tu tombes en amour avec. Pour avoir eu fait cet album-là, c'était juste un cadeau là, pour moi.
Je vais retourner dans le bois, dans le bois. Je vais retourner dans le bois. Dans les moucos qui ont des berries, des belvets et des pâtries. Dans le bois, dans le bois. Je vais retourner dans le bois. Les patates à ramasser, la pile de bois à compter. Dans le bois.
On vient à Montréal, Lisa est programmée sur le festival. Évidemment, on va pas louper ce rendez-vous. Salut Lisa.
Allô.
Bienvenue sur nos radios. Alors évidemment, on va reparler quelques mots de ce super album qui vient de sortir. On redécouvre peut-être ton personnage, hyper surprenante. C'est-à-dire qu'on sait jamais, on sait jamais à quoi s'attendre avec toi. Parce que quand on regarde toute ta discographie, on voit que tu as navigué dans plein de styles musicaux assez variés, que tu as manifestement des goûts qui sont hyper larges. Et puis là, tu nous sors une sorte de petite bombe funk, disco, mais avec tout ton background personnel. Comment que c'est venu ça, ce projet d'album?
Écoute, c'est quand même une longue histoire, mais je vais essayer de le faire court. Là. On a commencé pendant la pandémie un bingo en ligne qui s'appelait le bingo avec Joanne. Puis on l'avait fait parce que nos gigs ont été annulés comme tout le reste du monde. On était à la maison, puis là, on a décidé on va faire un bingo. Fait que on a commencé ça pour le fun. On a commencé à faire de la musique de bingo parce qu'on avait besoin de musique entre les rondes de bingo, puis on avait des amis qui nous donnaient des prix pour les gagnants, comme du bacon. Fait que, tu sais, là, tout d'un coup, le bingo devenait intéressant, tu sais, comme... Fait que là, ça a comme un peu pris le dessus de toute notre vie. Puis là, ben, tout d'un coup, moi, mon alter ego Belinda, qui était comme une waitress des années 60, qui a bien belle attitude, puis qui chante exclusivement des chansons de bingo sur un genre de disco... années 90 un peu, genre. Fait que c'est un peu... Puis là, un moment donné, on a tellement eu du fun puis du plaisir à faire ça comme ça qu'on s'est dit, ben OK, pourquoi on fait pas un album disco mais pas en chantant de bingo? On va le faire avec Lisa et non mon alter ego Belinda. Puis c'est comme ça, en fait. Ça a été vraiment évoqué dans le... C'était vraiment dans le plaisir qu'on l'a fait. C'est devenu vraiment naturellement chez une grande fan de disco depuis des années, mais jamais j'aurais cru que je m'étais retrouvée avec un album disco puis funk. T'sais, comme, c'était vraiment pas dans mes objectifs de vie, mais je surprenamment, on est là, puis on est en train d'en parler, puis on a fait un album au complet. Fait que c'est ça. Ça a vraiment été une bulle au cerveau, mais vraiment, puis c'était vraiment le fun.
Et un album qui arrive vraiment à un moment où tout le monde a envie de bouger, a envie de danser. Après ces 2 ans, on est resté sans rien faire. Et c'est vrai que tu parles de disco, de funk, mais pas juste ça, parce qu'il y a une culture musicale. Enfin, ça groove de feu.
Merci.
Je trouve ça incroyable. J'imagine, enfin, le travail avec les musiciens pour arriver à apporter tout ce groove-là, ça a dû prendre du temps.
Oui, mais comme je dis, ça s'est fait vraiment organiquement, cet album-là. J'ai été chercher des musiciens qui savaient, qui adoraient les tones des années 60, des années 70. Puis c'est deux des gars des Hôtesse Diller, qui est un band de genre...
Qu'on connaît bien en France.
C'est malade, ils sont tellement bons. Puis fait que c'est deux des gars, le guitariste puis le keyboardiste, que j'ai apporté. Puis avec Ben, mon bassiste, qu'on a comme écrit ces tunes-là ensemble. C'est tout du monde qui aime ce genre de musique-là. Puis pour nous, c'était une contrainte aussi. Puis c'était comme... Je voulais vraiment faire sûr aussi que j'avais des musiciens que je trouvais qui étaient quand même capables d'aller là. Puis ça a juste bien marché. Puis en tout cas, on a vraiment trippé. Comme je dis, c'était une contrainte, mais ça a finalement été vraiment une belle direction. Puis ça nous a un peu guidés aussi à faire comme, OK, bon, ben on va essayer de faire des tunes disco, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis là, après ça, ben on est allé un peu partout là-dedans, mais c'est vraiment... j'adore ces musiciens-là. J'ai un énorme respect pour leur travail, puis leur talent, puis leur créativité. Ils ont tellement des bonnes idées. Je faisais confiance.
Et on arrive aux 2/3 de l'écoute de ton album, et là, on a une petite douceur dans un univers à la Hill Hazelwood, qui est aussi quelqu'un que tu adores.
Oui, énormément. C'est mon réalisateur préféré, Lee Hazelwood. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ben c'est lui qui a écrit « These Boots Are Made for Walking » de Nancy Sinatra, puis il a réalisé plein d'albums de Nancy. Je n'ai vraiment beaucoup écouté dans les dernières années, puis ça paraît, mettons, dans l'album.
Ben c'est encore une fois très réussi. Alors là où on est super content, nous, en France, c'est que tu arrives bientôt par chez nous à l'automne.
Oui!
En octobre, les dates sont en train de se caler. Alors, il y a déjà pas mal de dates en Bretagne, à Paris, qui sont annoncées.
Oui.
Et ça va se compléter, là. Donc, il faut surveiller sur les sites de Lisa Leblanc.
Yes! Alors, je suis vraiment, vraiment excitée de venir vous retrouver. Puis, recommencer à tourner aussi. J'étais là juste comme en petit aperçu. J'avais été faire un petit peu de promo au mois d'avril, mais c'était tellement... tu sais, là, j'ai vraiment hâte d'y aller avec le band. Puis, de retrouver tout le monde aussi, ça fait des années. Ça fait que... Vraiment, vraiment excité.
Qui va être ultra rodé parce qu'il y a un paquet de concerts aussi cet été au Québec.
Oui, c'est parti, là. C'est vraiment parti.
Et puis moi, je te propose, après le concert, on va chez Tim Hortons, prendre un café doub-doub et manger 3 Timbits.
On fait la route pour Tadoussac demain, qui est comme 7 heures de route. Fait que je pense qu'on va en manger demain. Ça va être en masse.
Merci, Lisa.
Merci. Gossip. J'ai Morton pour savoir qu'est-ce que la gossip. Café dub-dub avec 3 Timbits, gossip. Pas de drive-thru, tu manquerais toute la gossip. Juste avoir la gossip. Gossip. Tous les matins quand c'est les pots rouvent, gossip. Mettre mes belles hardes, prendre tes drives, gossip. Rain or shine, top shape ou malade. Gossip, gossip. Ah ah ah, ça pas d'allure. Ah ah ah, ça pas d'allure. Ah ah ah, ça pas d'allure. T'as-tu vu l'allure, t'as-tu vu l'allure. Well, Sainte-Bénite, on a retenu de vue. Well, ah ah ah, ben ça se peut-tu. As-tu vu ci, as-tu vu ça. Savais-tu pour ci, savais-tu pour ça. Pour chaudir rendu au foyer, gossip. Allez pas méchante, allez juste à Nantes, gossip. Y'a bongé son orignal, y'était fou comme la marde, gossip. Gossip. Ah ah ah, ça pas d'allure. Ah ah ah, ça pas d'allure. Ah ah ah, ça pas d'allure. T'as-tu vu l'allure, t'as-tu vu l'allure. Well, Sainte-Bénite, on a retenu de vue. Well, ah ah ah, ben ça se peut-tu. As-tu vu ci, as-tu vu ça. Savais-tu pour ci, savais-tu pour ça.
Gigi, c'est le cousin à la mère, la tata ton père. C'est la mère adoptive, au boyfriend à la cousine de ton oncle. La connais-tu, c'est Lucie la prospère, à Edmond Thérèse. Le connais-tu, c'est Euclide à Fernand, à Yvette à Bruno. À qui la fille, je l'ai jamais vue ici. Par chance qu'il est fin, parce qu'il est comme un pou. Ils sont laissés, à pouvait plus le stander. Le bon Dieu, il veut pas pis le job non plus. Le bon Dieu, il veut pas pis le job non plus, hein.
J'avoue que je me suis comme beaucoup baladé sur les scènes extérieures.
C'est parfait, c'est fait pour ça.
Et c'est vrai que j'ai vraiment apprécié Alex Berger.
Oui.
J'ai vraiment apprécié Vinsomme. On dit Vinsomme ou
Twenty-Somme.
Twenty-Somme. Qui était là sur un ancien des Dead Obies,
qui travaille maintenant, qui fait des featuring à gauche, à droite, qui était présent hier sur scène avec Larry Kidd. Et qui va certainement l'être samedi pour le grand retour de LLE, puisque ce sont devenus des vrais potes.
Et c'est aussi évidemment un festival où, comme il y a plus de 300 professionnels qui sont invités d'à travers le monde de la francophonie, c'est aussi un moment pour ces artistes de se montrer et pour certains et certaines de trouver des partenaires pour ensuite venir en France ou en Europe.
Ben, depuis 10 ans maintenant, dans le cadre des Franco, on fait ce qu'on appelle les rendez-vous pros, où il y a, cette année, nous avions 428 professionnels inscrits de façon très précise, où on présente des showcases, des ateliers, des débats, des panels, tout ce genre de trucs-là. Il y a fort à parier qu'il y a quelques-uns des artistes qui ont été présentés en showcase, oui, qui vont avoir des deals, de ce que j'ai entendu. Est-ce que l'encre est sèche et les deals sont vraiment signés? Pas encore, mais je suis convaincu qu'il va y avoir des annonces d'ici la fin de l'année, c'est sûr et certain.
Vous, c'est un travail aussi que vous faites. Il y a donc ces mises en avant de ces jeunes artistes tout au long du festival. Est-ce que derrière, il y a aussi un suivi, un petit accompagnement que vous faites, peut-être pas directement avec les artistes, mais au moins avec les structures qui travaillent avec eux?
Ben, l'avantage qu'on a au Franco, c'est qu'on est des assez bons dépisteurs en général sur les jeunes groupes, sur les nouveaux talents. Et ce qu'on aime bien, on n'a pas peur d'être fidèle à ces jeunes artistes. On n'a pas peur de les reprogrammer deux années consécutives et même parfois trois, dépendant de l'actualité qu'ils ont. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il y a un suivi régulier qui se fait sur toutes sortes de choses. On a par exemple le prix Félix Leclerc qu'on va décerner samedi, et je ne vous dirai pas à qui, parce qu'il y a plein de gens qui vont être jaloux. Mais le prix Félix Leclerc est un très bel exemple de ça. Donc, le lauréat québécois va jouer au Franco à La Rochelle l'année suivante et le lauréat français vient jouer au Franco à Montréal l'année suivante. Donc, il y a ce genre d'échange qui, on le sait, facilite nécessairement ce genre de suivi, ce genre de développement d'artistes aussi.
Et puis, il y a aussi les délégations québécoises qui vont, je ne sais pas, sur le BIS, sur les transmusicales, sur le Printemps de Bourges. Vous en faites souvent partie?
Beaucoup, beaucoup. C'est important. C'est drôle. J'ai dit ça, je me rappelle plus qui, mais cette année, sur les Franco de Montréal, c'était une édition un peu spéciale parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de groupes qu'on a présentés et qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir. La plupart des artistes français qui sont ici, qu'on avait vus sur des premières tournées, par exemple une Juliette Armanet, ou une Barbara Pravi qui jouait hier, un Hichon il y a deux jours, trois jours. Bref, ce sont des nouveaux artistes qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir parce que le voyage était difficile, disons-le comme ça. Donc, on a pris énormément de chance cette année sur des jeunes artistes. Et j'ai l'impression que ça a été plutôt payant parce que même nous, on était excités de voir ces jeunes-là parce qu'on ne les avait pas vus.
On a pu voir des commentaires sur les réseaux sociaux justement sur ce public québécois qui découvrait ces jeunes artistes françaises et français, de dire « Ah, dis donc, belle découverte pour moi !» C'est vrai que ça doit faire chaud au cœur parce que ça veut dire aussi que le travail est bien fait, réussi.
Et il y a un public. Et tu fais très bien de le souligner, Cédric, parce que j'ai croisé Barbara Pravi il y a une heure environ, juste avant qu'elle prenne l'avion. Et elle me disait qu'elle avait rarement vu un public comme celui de Montréal. Avant-hier, Clara Luciani a tenu exactement le même discours. J'ai l'impression qu'on a su cultiver au fil des ans une vraie curiosité de la part des festivaliers qui viennent sur le site, qui sont même prêts à payer pour faire des vraies découvertes. Et ça, je trouve ça assez fantastique. L'autre grande différence, le public québécois est un public très enthousiaste, contrairement au public français, qui n'est pas toujours très enthousiaste, qui est un public qui est beaucoup plus
dans froid. Dans la critique.
Dans la critique, oui. Ouais. Alors que si on s'en fout de la critique, on aime ça, puis on chante, on danse, on boit des bières, puis la fête, c'est tout. Mais ça change, la dynamique entre la scène et la salle change beaucoup à cause de ça, ou je devrais dire grâce à ça.
Et on est en compagnie de Matt Vézio pour les radios de la Ferra Rock. On est en direct de Montréal, des Franco de Montréal. Salut Matt.
Salut, salut.
Bienvenue sur nos radios et merci de ton accueil ici. Tu étais en concert ce 11 juin pour les Franco. Ça s'est bien passé, ce concert un peu de reprise, de rentrée là.
Exact, ça s'est très bien passé. C'était le fun de retrouver ce Franco. C'est le fun de voir le monde marcher dans les rues et tout ça.
C'est surtout pas tes premières Franco. Toi, parce que tu étais déjà en 2017, non, je pense, premier album?
Oui, j'étais là au premier album en 2017, c'est vrai.
Et puis je pense que tu as pu faire d'autres Franco aussi en tant que musicien avec d'autres groupes, parce que avant de partir en solo, tu as ce parcours de multi-instrumentiste et notamment de batteur.
Oui, j'ai accompagné des artistes depuis, ben en fait, ça fait 10 ans que j'accompagne encore des chanteurs, chanteuses, souvent au drum. Puis oui, j'ai eu la chance de faire les Franco depuis, je dirais, 2008.
Ouais, et puis ben cette année, année encore plus excitante parce que c'est l'année de sortie de ton troisième album solo qui est sorti au mois de mai, il est tout récent, il s'appelle Couleur Ciel Ecchymose, qui sort chez Simon Records. En fait, il y a deux choses qui m'ont beaucoup plu dans ton album. C'est un... Je trouve qu'il y a une prise de risque au niveau de la composition. Tu ne vas pas du tout dans la facilité. Donc j'aimerais bien qu'on parle de ça. Et justement, ce travail sur les arrangements, je trouve qu'il est assez magnifique aussi. Donc je voulais savoir un petit peu comment tu l'as imaginé, avec qui tu t'es entouré.
Au début, quand je commençais l'album, je me disais que l'album allait vivre différents univers. Et puis, j'avais comme référence un peu l'album, les premiers albums de Jean Leloup. Une chanson est enregistrée dans un studio. Après ça, on s'en va dans un autre studio avec une autre prise de son, lo-fi. Le son change de chanson en chanson, puis c'est pas grave. Puis on est dans des univers différents. Puis je me suis comme inspiré de ça un peu. Dernièrement, il y a aussi... On dirait que ça revient un petit peu, en tout cas au Québec. Il y a Hubert Lenoir qui utilise beaucoup cette façon qui a utilisé cette façon de faire pour son dernier album. Puis je trouve que ça fait du bien aussi de laisser parler la musique, de laisser respirer parce que les chansons, on va se le dire, l'écriture des chansons prennent une place assez dense dans mon écriture, là, dans ma composition. Fait que ça laisse un peu respirer les chansons, puis ça met un moment de pause aussi de méditatif dans l'album. Je trouvais ça pertinent de les apposer, même si c'est pas des trucs très high-five. Des fois, c'est des quelques secondes, des univers que j'enregistre avec mon téléphone à l'hôtel. Je suis inspiré par toutes sortes de musiques différentes, puis... on dirait que quand je compose la musique, je compose pas. En fait, jusqu'ici dans ma vie, là, j'ai pas composé en pensant à un style musical en particulier. Je m'inspire, je me nourris de toutes sortes de musiques. Puis après ça, quand je laisse aller le flow, ça sort de cette façon-là. Mais c'est juste à la fin. Donc à la fin, j'essaie d'être comme le metteur en scène de mes chansons. Puis c'est juste à la fin que c'est comme un réveil brutal. Tu fais comme OK, je viens de composer 14 chansons. OK, on écoute ça dans son ensemble, qu'est-ce que ça donne et tout. Fait que c'est comme une surprise à chaque fois. C'est un travail qui est comme avec minutie pour travailler chaque morceau, chaque passage. Mais c'est comme si c'était un rêve à chaque fois. Puis après, c'est à la fin, je me rends compte que là, OK, j'ai ces chansons-là. Fait qu'on on utilise ce matériel-là pour en faire une substance qui est justement dans le mix aussi. Il y a beaucoup de surprises dans le mix. Il faut dire que le travail de Ghislain Luc Lavigne dans le mix, lui, il travaille avec moi depuis les débuts. Donc, on commence à se connaître un peu, puis je trouve qu'il amène beaucoup de surprises justement dans les éléments de mix. Pour moi, c'est important justement que ça soit pas lisse, cet album, qu'il soit pas lisse. Des fois, on est là à reprendre les voix, pour lisser tout, lisser le drum, lisser l'instrumentation. Donc, ces moments-là, les univers qui apparaissent, les entre-chansons, c'est là que je trouve ça important qu'elles soient là parce que ça vient délisser le propre de l'album. J'ai été intéressé par les migrations d'oiseaux et tous les problèmes que les oiseaux avaient, esselés, blessés. Tu sais, c'est sûr que quand tu regardes une migration d'oiseaux de vue de la Terre, ça a l'air beau, c'est poétique, tu sais, c'est comme... Mais j'ai vu des documentaires, tout ça, puis je me suis beaucoup nourri de ça, puis c'est brut, c'est pas lisse du tout, là. J'ai pris un avion, j'ai eu cette chance de prendre un avion pour aller en Abitibi à un moment donné, pu voir le paysage pour la première fois, qui est supposé être comme une forêt infinie, puis à vol d'avion, on voit que c'est juste des petites rambardes de forêt sur le bord de l'autoroute pour faire beau. Après ça, c'est des coupes à blanc, fait que ça fait mal de voir ça, tu sais, d'avoir une autre perspective sur le monde, c'est vrai que ça... Et puis j'ai composé aussi cet album-là quand j'ai eu à prendre beaucoup d'avions pour une tournée où j'accompagnais un artiste à travers le Canada. En prenant ces avions-là, j'avais une commande d'écriture, je devais composer dans l'avion, puis on dirait que j'avais ce regard-là qui était... autre que celui terrestre.
Alors, il y a beaucoup de mélancolie dans ton travail, hein, depuis le début. Beaucoup de toi, évidemment, que tu mets dans ces disques. Et là, il y a quelque chose peut-être encore plus personnel, parce que tu as eu un déclic lié à la disparition de ton grand-père paternel, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises?
Ouais, mes grands-parents, avec qui j'étais quand même bien lié.
Qui étaient italiens, toi, tu es d'origine italienne.
Oui, c'est ça. Ben, mes grands-parents sont arrivés à Montréal quand ils étaient tout jeunes. Donc, ils étaient à Campobasso, ils sont arrivés à Montréal. J'avais un rapport quand même fort avec eux et avec les traditions italiennes. Puis, c'est en écrivant les chansons qui parlaient des migrations que j'ai fait un parallèle en écrivant une chanson qui s'appelle Molisé, qui est en fait la région de Campobasso. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait comme un lien que je pouvais faire avec l'immigration de mes grands-parents, comme s'il y avait juste eu... Une migration, c'est un aller simple seulement. Et puis, tous les frittements de cette culture-là italienne que j'ai perdue quand ils sont décédés. Donc, il y a cette nostalgie-là au départ, puis la nostalgie de me ramener dans cette époque-là de jeunesse. À partir de 12 ans, quand eux sont décédés, je perdais un peu les fondations de cette culture-là italienne. Bien, j'ai commencé à me l'imposer moi-même, puis je me suis créé à partir de ça un peu sans filet. C'est intéressant, je trouve, parce que ça va toucher un peu le monde de l'inconscient, puis du rêve un peu. Fait que c'est abstrait, je dirais, les textes.
Une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'un jour, tu penses que tu auras l'envie d'écrire en italien?
J'ai collaboré sur l'album avec... je réponds indirectement à la question, mais j'ai collaboré avec Fab de Random Recipe sur l'album, qui chante dans la chanson Lost River. Puis eux, avec le projet, ils me disaient que quand ils sont bons en Italie, ils travaillent leur chanson en italien. Ils changent les textes et tout ça, ils font des featuring avec les Italiens. Donc, je sais pas, j'ai jamais trop pensé à chanter en italien, mais ça fait longtemps que je veux me réapprendre l'italien, que j'ai perdu et tout ça. Mais qui sait?
Les alarmes de feu qui sonnent toute la nuit. On attend les aveux, on attend la pluie. Ça se prend pour Dieu, ça laisse mourir la vie. Ça se branle la queue, ça laisse pourrir les fruits. Qui a mis le feu? Qui a fui les lieux? C'est l'odeur du sang qui le rattrapera. contrôler du haut de la tour. Après la pause commerciale, on retrouvera l'amour qui a mis le feu, qui a fui. Frotte les yeux, on pense à demain qui nous relèvera.
Merci beaucoup, on souhaite une belle et longue vie à Couleur Ciel et Chymose. On rappelle que l'album vient tout juste de sortir chez Simon Records au mois de mai. Il y a des vinyles qui arrivent bientôt. Et si vous, vous êtes aussi convaincu, vous pourrez aller commander les disques, évidemment. Il y a un Bandcamp sur le label, il y a ton propre Bandcamp aussi.
Le Bandcamp, c'est la meilleure façon d'aller acheter des disques. Les vinyles s'en viennent, ils vont arriver peut-être à la fin de l'été. Là.
Et puis on espère te voir en France.
Et moi de même.
Pour des concerts très bientôt. Merci.
Et merci à vous.
De retour sur les ondes de la Ferrarock, sur l'Esplanade tranquille qui, hier soir, n'était pas si tranquille que ça parce qu'il y avait un concert de rock avec un groupe qui s'appelle Miel. Miel, c'est sucré, mais là, c'était plutôt salé ce que vous nous avez proposé. Bonjour et bienvenue sur les ondes de la Ferrarock. Je vous laisse vous présenter à nos auditrices, à nos auditeurs.
Allô, je m'appelle Paige, je suis la chanteuse.
Salut, moi c'est JF, puis je suis pas la chanteuse, je suis le guitariste.
Et chanteur.
Ah ouais, je chante quoi.
Toi, Paige, tu es venu ici, tu as appris le français et ensuite tu t'es lancé dans ce groupe.
Mais moi, je savais pas un mot en français avant que je suis déménagée ici. Je pensais que c'était important de l'apprendre et la musique, c'était plus une bonne façon pour moi. C'était plus créatif. Aussi, quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de musique en français. Oui, juste comme des chanteuses françaises, les classiques Brigitte Bardot, mais aussi Jane Birkin, qui est un peu...
Françoise Hardy, France Gall.
Ouais.
En fait, moi, j'ai tout le temps eu des groupes rock'n'roll anglophones, tu sais, puis là, c'est comme elle qui a renversé un peu le truc. Puis avec son accent, je trouve que comme ça fait une belle addition, tu sais, le français passe mieux. Souvent, il y a comme un lexique de mots plus... commun au français.
C'est vrai qu'on a souvent sur les groupes de rock québécois une sorte de fond de musique québécoise ou de références qui sont liées peut-être à soit des airs traditionnels, enfin j'exagère, mais un petit peu. Et forcément chez vous, c'est pas du tout le cas. On est sur quelque chose de pur rock avec une énergie et puis des mélodies qui restent dans la tête. Il y a un côté très machine à tube, je trouve, dans ce que vous faites.
Tant mieux.
Au départ, on était que deux, donc c'est pour ça qu'on avait inclus vraiment tout ce qui était un peu beat machine en arrière, tu sais, comme il y a beaucoup de monde qui associe ça avec les Kills, tu sais, c'est que on voulait pas faire ça trop électronique 2020 là, avec des sons trop poussés, puis qu'on a vraiment gardé ça. Finalement, là, maintenant, on a un drummer qui nous suit, une belle rencontre avec ce drummer-là, que ça a vraiment cliqué, tu sais, parce qu'on voulait pas inclure n'importe qui avec nous, vu que des fois ça peut être drôle comme dynamique de tourner avec un couple ou peu importe, donc... C'est celui où on l'a rencontré un peu par hasard, puis ça a tout de suite kické, même avec Paige.
Alors, hier, c'était un lancement d'album, on va dire de façon officielle, sur scène.
Ouais,
une occasion pour vous de présenter, durant les Franco, ce tout nouvel album. Et comme moi, j'ai vu déjà les gens qui connaissaient bien les paroles et tout, enfin, c'était fou. Hein.
Quand j'ai vu le monde en train de chanter avec moi, je suis comme « Oh my God!
» On était en tournée cette fin de semaine aussi, puis c'est la même chose. On était à 10 heures de route au Québec, tout le monde chantait les paroles. Donc là, c'est là que tu vois que ça commence à atteindre la cible, ça fait du bien.
Là, l'album s'appelle
Lécher le ciel.
Lécher le ciel. Alors moi, ça me fait penser au building que vous êtes en train de construire partout là à Montréal. J'ai l'impression que vous voulez toucher le ciel avec les buildings. Mais ça veut dire quoi, lécher le ciel? C'est une expression au Québec? Parce que non, pour nous, ça veut pas dire grand chose. Hein.
Ça, on a vraiment, on a composé le premier album à travers beaucoup de road trips. Quand moi et Paige, on s'est rencontrés, mais qu'on n'habitait pas ensemble, on se rejoignait à gauche, à droite, aux États-Unis. Puis là, on composait sur la route comme ça. Brièvement. Puis le deuxième album, c'était pendant la pandémie, donc on a décidé d'acheter une van, de traverser le Canada pour garder le même concept. Puis Lécher le ciel, c'était une espèce de... Je pense c'est venu comme en Saskatchewan, où c'est des heures et des heures de ligne droite, puis il n'y a rien d'autre que le ciel en avant de la route. Puis Lécher le ciel, ça représentait la relation entre la voiture, le ciel, la route. Puis...
On a créé une expression.
On peut espérer faire combien de dates au Québec quand on a un groupe de rock à l'heure actuelle?
Il y a beaucoup de barre dans l'équation, ça c'est sûr, donc c'est un peu plus dommage à cause que ça rejoint un peu moins en bas de 18 ans, mais en salle, il n'y a pas vraiment de salle encore qui sont tellement ouvertes, je te dirais, à avoir un public rock, c'est beaucoup dans les pop, dans le pop maintenant.
Il y a beaucoup de band rock dans les festivals.
Ouais, c'est ça, les festivals, je pense, sont plus ouverts au rock, justement, parce que là, ça fait lever un peu l'ambiance est plus festive.
Ça déplace l'air.
Ouais, c'est ça. Mais dans l'est du Québec, c'est beaucoup, beaucoup rock, là, je dirais, à partir de Québec là, jusqu'en tout ce qui est Beauce, Lac-Saint-Jean. C'est là, comme je disais, on a pu recommencer à zéro à cause de la fameuse pandémie, mais là, on est vraiment en mission là, de traverser l'autre côté de l'océan. Je pense qu'on a bien rempli notre travail ici, puis là, je pense que ça va être d'aller voir, c'est ça, là, de magasiner, de s'assurer, parce qu'il y a beaucoup de Français, de Belges à Montréal, puis quand, tu sais, c'est tout le temps les mêmes commentaires, c'est toujours les premiers à venir nous voir, puis ça, c'est eux qui... Je trouve qu'ils ont la plus grosse réaction en général, mais pourquoi vous n'allez pas en France? Ça marche, ça serait géant.
Ça fait partie des envies, en tout cas, des attentes
pour
eux.
Parce que déjà, avec la musique francophone, c'est quand même assez niché. Là, si on restait au Québec, c'est ça serait dommage. Donc
c'est la prochaine étape.
Merci beaucoup.
Ben, merci à toi.
Merci.
tête électrique.
On n'en est pas encore arrivé au tout au bout, hein. Il reste deux jours là.
Il reste deux belles journées.
Deux belles journées, ouais. Mais néanmoins, toi, t'as retenu, t'as un truc qui est sorti un petit peu pour toi, ou un concert que tu attendais, ou alors t'es vraiment dans l'ensemble.
Je pense que il y a eu beaucoup de très très beaux moments, mais je pense que la soirée jusqu'à maintenant, ça a été le spectacle qui s'appelait Bye 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 Karim, une veillée entre amis où on a chanté et pleuré en mémoire de Karim Ouellet. Je pense que cette soirée-là va rester dans les annales des Franco et dans le cœur de beaucoup de gens qui étaient présents aussi. Les artistes sur ce spectacle ont fait un travail extraordinaire, tout en nuances. C'est pas évident de souligner le départ d'un ami qui est mort il y a 5 mois et à un très jeune âge. Il avait à peine le début de la trentaine, Karim. Hein? Donc, je trouve qu'ils ont extrêmement bien fait ça. On a réussi à sourire, on a réussi à danser quand même pendant cette soirée.
Et pour le coup, les buildings avaient une vraie utilité parce que ça a permis à Karim d'aller flirter avec les étoiles.
Ah, mais grave. Je disais à Esther, une des productrices du show, c'est facile de faire danser, de faire chanter plein de gens sur la place des festivals, mais l'exploit qu'ils ont réussi, c'est, et sans le demander, on a eu un bon 30-45 secondes de silence lorsque défilaient les photos de Karim. Et ça, c'est un vrai exploit. Réussir à avoir un silence comme celui-là, avec une foule comme celui-là, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que j'ai vu ça. Et peut-être même la dernière avant un grand, grand bout de temps.
Ça restera un de tes souvenirs forts sur ces, combien, 23 ans de programmation?
23 ans de programmation, absolument, absolument, absolument. Ça a été une soirée mémorable, vraiment, vraiment.
En tout cas, merci beaucoup. Alors, l'année prochaine, si je reviens, je ne sais pas, peut-être je ne reviendrai pas, mais en tout cas, on ne se reverra pas là, en face à face, interviewé en tant que programmateur.
Non.
Autrement, on te verra autrement.
C'est sûr, je ne peux pas, je ne me vois pas ne pas venir au Franco avec mon chapeau de touriste et de festivalier.
Ouais, j'ai lu dans la presse que tu avais cette envie de passer la main aux plus jeunes parce que place aux jeunes, c'est super important. La transmission.
Ben, c'est la transmission, oui, d'une part, et c'est une chose sur laquelle je travaille, je réfléchis depuis quelque temps. Quand même, c'est pas une décision qui a été prise à la légère non plus d'arrêter tout ça. La transmission, c'est important, mais au-delà de la transmission, il y a aussi, je pense, une chose qu'on a réussi à installer au Franco, c'est de laisser la place aux jeunes artistes, aux jeunes talents. Je pense que ça, c'est maintenant dans l'ADN du festival, et ça, j'en suis même fier. On parlait des plus vieux en début d'interview. Pour certains, ces vieux-là, ce sont des découvertes aussi. Tu sais? Et il faut nuancer un paquet de choses dans tout ça. Mais mon leitmotiv cette année, c'est quand même, comme disait notre bon vieil ami Kanye West, « Listen to the kids, bro ». Et ça, c'est important. On doit les écouter. On doit absolument les écouter.
Merci, je crois que c'est le meilleur mot de la fin.
Merci, Cédric.
À bientôt.
C'était Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock spéciale Franco de Montréal. Bel été à vous toutes et à vous tous. One by one, one by one.